RJB, spéciale élection.
Bonjour à tous, on poursuit aujourd'hui notre série de débats consacrés aux élections fédérales dans la matinale. Et pour ce troisième rendez-vous, on se penche sur les thématiques santé et sociale. Et pour en débattre, nous recevons ce matin deux candidats au Conseil national. Pour le PBD, la Tavanoise, Christine Buller, bonjour.
Bonjour.
Et pour le PEV, Tom Gerber de Reconvilier, bonjour.
Bonjour.
Alors on démarre ce débat par un thème qui a fait l'actualité, c'est celui du congé paternité. Le Conseil national s'est récemment prononcé en faveur d'un congé paternité de 2 semaines plutôt que les 4 semaines de l'initiative populaire. Christine Buller, quelle est votre position à ce sujet ?
Je salue très fortement cette congé de 2 semaines. Je trouve que c'est aussi une sorte de respect pour le nouveau-né qu'on donne un poids à cette naissance. Et puis, il faut prendre conscience des changements dans la société. C'est vraiment, ça doit rester un choix libre pour l'homme ou la femme de comment il veut organiser leur vie familiale. Mais ces 2 semaines, c'est un premier pas qui peut démontrer que le monde ne s'écroule pas à cause de ces 2 semaines.
Un premier pas, ça veut dire qu'il en faudrait plus ?
Je pense que ça va se développer gentiment, comme toutes les nouveautés qu'on a introduites. À la longue, ça montre que c'est précieux, c'est nécessaire, et puis on peut toujours construire là-dessus.
Tom Gerber, 2 semaines de congé paternité, c'est assez ?
C'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est suffisant. Moi, je pense, comme l'a dit Christine, je pense que c'est un bon début, je pense que c'est important, je pense qu'on doit soutenir une politique familiale dans ce sens-là, c'est très bien. Après, bien sûr, des congés paternité, congés maternité, il faut toujours les financer, alors ça dépend comment on voit les choses. Je pense que ces 2 semaines, je pense que c'est un bon début, je pense que c'est appelé encore à évoluer. Et c'est vrai, par exemple, c'est des frais qui sont pris en charge par l'allocation perte de gain, par la PG. Et puis, alors, ça coûte vite cher. 2 semaines, je pense que c'est bien. Si on peut dire, si on regarde, par exemple, on regarde ça de l'armée où on est payé par la PG. Et puis des semaines d'armée que j'ai fait ou qui ont servi à rien, on aurait la capacité de l'étendre un peu plus.
On pourrait réduire l'armée et privilégier le congé paternité.
Pourquoi pas, en tout cas, si on regarde des cours de répétition qui ont été inutiles, que j'ai fait ou j'ai été payé par l'APG, oui, il y aura encore de la capacité.
Déjà, on peut faire une égalité parce que les jours de l'armée sont mieux payés que les jours de congé maternité, ça c'est clair. Je suis contente qu'on a fait un début, mais vous savez, ça coûte toujours. Mais peut-être on peut aussi épargner des autres frais qui sont le résultat de pas faire attention aux vies de famille.
4 semaines, ça ne serait pas supportable pour l'économie actuellement ?
Alors, en tant que patron, quelqu'un qui est loin 4 semaines, c'est difficile, c'est vite compliqué dans ce sens-là. Moi j'ai un peu, en allemand on dit zwei Herzen, mein Bruce, je suis un peu tiraillé, je dois dire franchement, parce que je sens à quelque part l'attitude du patronat où c'est vite difficile de faire beaucoup plus et en même temps le souhait d'avoir vraiment une politique familiale. Et puis si on parle de politique familiale, 2 semaines c'est vraiment minimal, 4 semaines ce serait nettement mieux. Mais bien sûr, à quelque part on ne peut pas simplement dire il faut et puis c'est les autres qui payent, ça c'est un peu trop simple.
Je trouve qu'en patron on a aussi l'intérêt d'avoir des collaborateurs motivés puis qui ont plaisir de concilier vie familiale puis la vie professionnelle. Je pense dans tous les 2-3 ans, une fois un mois absent et puis avoir un employé heureux, je trouve que c'est aussi précieux puis ça peut aussi emmener beaucoup.
Oui, parmi les arguments en faveur du congé paternité, c'est aussi qu'une présence plus importante des pères au sein de la famille, ça permet de faciliter la réintégration des femmes sur le marché du travail et donc aussi d'agir contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. C'est une bonne chose pour l'économie, non ?
Oui, je pense. Et puis, on doit encore clairement, l'économie aussi doit se mouvoir un peu. Parce que, par exemple, On doit donner la liberté aux familles de savoir comment ils veulent s'organiser. Est-ce que c'est la maman qui fait une pause professionnelle? Est-ce que c'est le papa qui fait une pause professionnelle? Mais par exemple, aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes, c'est encore difficile de réduire le temps de travail. Le patronat est encore souvent très réticent, mais je pense que là, il y a encore quelque chose qui est en mouvement, mais qui est appelé à être développé, où on doit encore être plus ouvert à pouvoir diminuer un taux de travail. Un homme qui travaille à 70, à 80%, ça ne doit pas être exceptionnel.
Ce qui est très important encore, que 8 semaines pour la maman restent intouchées. C'est important pour sa santé.
Au sein d'autres pays, on parle aussi beaucoup de congés parentaux, un certain nombre de semaines à se partager entre les deux parents. Ce n'est pas une solution plus adaptée à notre société moderne?
Absolument, absolument. Donc, les jeunes femmes qui ont des bonnes formations, je ne vois pas de raison pourquoi ils n'appliquent pas leur métier.
Moi, je suis assez ouvert. Et je trouve que... Alors, maintenant, on a un congé maternité. On a introduit 2 semaines de congé paternité. Je pense que c'est un bon début, mais je ne pense pas que ça doit être figé pour les prochaines 10 ou 20 ans. Et à la base, je suis pour un congé parental... ou dans le sens où il y a une certaine flexibilité, ou la possibilité de distribuer certaines semaines à choix entre le papa ou la maman.
Vos deux parties accordent une place importante aux familles. Quelles sont vos solutions pour soutenir les parents qui travaillent, Christine Buller?
Déjà qu'on mette à disposition des places pour les enfants, donc des crèches qui fonctionnent bien, qui sont payables aussi. Mais je soutiens beaucoup le tarif social, donc ceux qui gagnent plus, qui doivent attribuer un tarif plus haut que ceux qui ont un salaire moins important. C'est des choses que je soutiens très fortement, mais il faut quand même voir, je suis contre une crèche gratuite. Parce que si la maman reste à la maison, ça coûte aussi quelque chose et puis ça vaut aussi quelque chose. Mais de trouver le juste milieu pour le financement, ces crèches, je trouve que c'est aussi pour les enfants en soi. C'est très précieux. Ils sont beaucoup plus social, ils sont moins peureux, par exemple. Je vois là que vraiment quelque chose d'important. Et puis des structures après à l'école, vraiment de journée. Pas qu'on une commence à 9h, l'autre à 7h, et puis qui rentre pendant toute la journée. Là, il faut avoir une adaptation.
Tom Gerber?
Alors, j'ai envie de prendre un peu le contre-pied. Je ne suis pas du tout tenant du modèle familial traditionnel où la maman reste à la maison. Mais on parle de la femme qui travaille, je pense qu'elle doit être soutenue, elle doit avoir cette possibilité, ça doit être un libre choix. Mais aujourd'hui, et ça me peine, c'est que la maman qui fait une pause professionnelle, qui prend soin de ses enfants, qui ne met pas à contribution l'État ou les structures de l'État, la crèche, etc., aujourd'hui, elle est trichée sur toute la ligne. Et là, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Il y a la femme aujourd'hui qui fait une pause professionnelle, elle est mal vue dans la société. C'est même les dames entre elles qui demandent « tu travailles pas ». Ça, c'est pas acceptable. Et puis après, il y a toute la question de la prévoyance. Une femme qui fait une pause professionnelle, aujourd'hui, financièrement et puis aussi socialement, elle est trichée sur toute la ligne. Et puis là, je pense que je vois plutôt maintenant, actuellement, là, quelque chose à faire où je pense qu'il faut aussi donner... C'est un choix, et ça doit être un choix... Mais ça doit être reconnu comme un travail, ça doit être reconnu à sa juste valeur, une maman ou un papa. Hein. Ça peut aussi être le papa qui prend soin des enfants, ça ne doit pas être la maman. Mais le parent qui prend soin de ses enfants, c'est aussi un travail qui doit être reconnu.
Merci Tom.
Vous parlez donc de prévoyance VIS, justement la VS, la LPP, on parle beaucoup de réformes en ce moment. Quelles sont vos solutions pour que les générations futures profitent aussi des institutions sociales?
Je pense qu'on doit peut-être commencer de voir l'individu. Donc, c'est pas seulement l'homme et femme ensemble. Le regard, il doit être beaucoup plus sur l'individu. Donc, il y a l'idée qu'on compte pour hommes et femmes à part. Je pense que C'est pas plus compliqué. Je ne pense pas que c'est beaucoup plus compliqué, absolument pas. Mais on a moins de peine après de rétribuer vraiment à son de partager juste. Le partage est déjà fait d'office.
Est-ce qu'il faut augmenter l'âge de la retraite, Tom Gerber?
Je suis un peu réticent. Alors, en regard de l'attente de vie, en regard de la pyramide des âges, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir l'éviter. Moi, personnellement, j'aurais envie de dire, avant d'augmenter l'âge de la retraite, j'aurais envie de lancer l'une ou l'autre idée plutôt novatrice, puis dire, au lieu, par exemple, d'augmenter l'âge de la retraite, pourquoi on ne demanderait pas aux jeunes retraités de, pendant, je ne sais pas, 2-3 ans, voilà, ils ont leur retraite, mais ils doivent encore fournir un service public, par exemple, garder les enfants de la jeune génération ou coacher des jeunes qui sont en recherche d'emploi, de places d'apprentissage. Ou, voilà. Je pense qu'il y aurait peut-être des solutions.
Il y a énormément de possibilités, mais peut-être le premier pas, c'est, ça commence aussi vers la société. Elle doit aussi accepter les personnes d'un certain âge dans le processus de travail. Parce que je suis persuadée qu'on doit augmenter ce stage de la retraite. Mais vraiment, les métiers qui sont vraiment physiques, comme sur la construction, ou bien aussi, bien sûr, l'agriculture, là, je ne vois pas des possibilités. Là, c'est le corps, je le sens moi-même aussi. Hein. On n'a plus la même force, on n'a plus la même endurance aussi. Et puis, ça doit être pris en conscience par la société, par les collègues, puis qu'on va créer des possibilités, peut-être des temps partiels, qu'on peut travailler encore de temps partiel. Je pense que c'est vraiment un modèle qui doit s'établir beaucoup plus.
Vous parlez d'augmenter l'âge de la retraite, mais on sait qu'aujourd'hui, les travailleurs plus âgés, s'ils se retrouvent au chômage, ils ont souvent de la peine à retrouver du travail, hein, à 55 ans et plus. Est-ce augmenter l'âge de la retraite, ça ne revient pas à empirer ce problème?
Là, il y a des solutions. Par exemple, la deuxième pilier, donc la prévoyance professionnelle, les contributions, il doit être, pour mon avis, il doit être toujours le même taux. Maintenant, ça augmente avec l'âge, et puis ça rend toujours plus cher, entre guillemets, l'employé à l'employeur. Et puis, il a l'intérêt de plutôt engager des jeunes, déjà à cause de ça.
Oui, on a actuellement un vrai problème au niveau de la LPP avec les taux. L'augmentation de taux dans l'âge, entre 50 et 65 ans.
C'est énorme.
Là, on doit vraiment trouver une solution. On doit trouver un taux linéaire, ou bien trouver d'autres solutions. Mais clairement, ça, c'est un problème. L'employé qui a au-delà de 50 ans, il devient beaucoup plus cher qu'un jeune. Alors, il a une expérience, c'est clair, mais j'entends en termes physiques, il est plutôt, entre guillemets, un peu en perte de vitesse. Voilà, ça nous arrive à tous, mais c'est une réalité. Et puis, dans ce sens-là, voilà, le système actuel, il péjore. Et puis là, on doit trouver une solution, mais qui est plus finalement de l'ordre politique, mais technique, avec une question de taux de LPP.
On passe à présent au volet santé de ce débat. Alors, un thème brûlant, c'est celui des primes maladie. On nous annonce hier une hausse modérée pour 2020 des primes, mais on nous dit aussi que ce n'est pas un redressement durable. Les primes maladie, ça reste une préoccupation majeure des Suisses et une lourde dépense pour beaucoup de familles. Alors, comment est-ce qu'on peut soulager ces familles? Christine Buller.
Moi, j'ai plutôt l'habitude de prendre le problème en face. Et puis, je vois vraiment plusieurs choses. Premièrement, aussi, qu'on doit centraliser, puis être d'accord, puis prêt de centraliser tout ce qui touche la médecine de pointe. Ça se peut pas qu'on, dans chaque petite ville ou bien dans chaque village, qu'on a des installations qui coûtent beaucoup, beaucoup trop cher, qu'on a vraiment besoin dans les régions périphériques, comme ici le Jura-Bernois, on doit avoir des ambulatoires, on doit avoir une couverture pour les prestations de base suffisant et bien. Et puis surtout, jour et nuit, et puis tous les jours de la semaine, ça, je pense, ça nous sécurise beaucoup dans nos régions. Et puis après, il faut être prêt pour se déplacer pour les traitements compliqués et puis chers. Là, je vois un grand potentiel.
Je pense qu'aujourd'hui, le problème du système, c'est qu'on est dans un système où personne n'a intérêt à économiser. Le consommateur n'a pas intérêt à économiser. L'hôpital, le médecin n'a pas intérêt à économiser. La pharma n'a surtout pas intérêt à économiser. Et puis, je pense qu'on doit, trouver des changements de système. On doit avoir le courage aussi d'instaurer des nouveaux systèmes pour à quelque part que notamment au niveau des soins, des hôpitaux, de la prescription de médicaments, on ait un intérêt, en fait, à donner moins, à faire moins, et puis pas toujours plus. Et puis aujourd'hui, on est dans un système où tout le monde aimerait, mais en fait, personne n'a d'intérêt.
Mais concrètement, comment on change ça ?
Alors moi, j'ai pas de... Il faut quand même dire, c'est un problème extrêmement complexe. Il n'y a pas de solution simple à ce problème extrêmement complexe. Mais je pense qu'on peut faire la comparaison avec la politique agricole. La politique agricole, on change de système tous les 4 ans, on a toujours des adaptations. Et puis je pense que dans la politique de santé, on doit avoir le courage d'introduire des nouveaux systèmes, quitte à ce qu'ils créent un nouveau problème, mais où on essaye d'introduire des petits sucres ou des éléments qui font qu'on a intérêt à faire moins, à prescrire moins. Puis aujourd'hui, typiquement, on a fait des SA avec les hôpitaux. Il faut qu'ils soient rentables, il faut qu'ils fassent du chiffre. Mais faire du chiffre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prescrire. Ça veut dire qu'au lieu de faire le traitement le plus simple, le moins cher, eh bien, on a intérêt à prescrire plus. C'est contradictoire.
Oui. Ça, je peux souligner vraiment aussi les prix de médicaments. C'est aussi, dernièrement, c'était aussi beaucoup discuté. L'industrie pharmaceutique, ils font les prix des médicaments selon le pouvoir d'achat en Suisse. Et puis, je trouve que c'est presque un peu malhonnête.
Pour Santé Suisse, la fêtière des assurances maladies, il faudrait augmenter la franchise minimale de 300 à 500 francs pour notamment contrer la surmédicalisation et contrôler l'augmentation des coûts. Ça serait aller dans la bonne direction ?
J'ai envie de dire d'une certaine manière oui, mais pour certaines personnes, ça devient de plus en plus difficile. Si c'est 500 francs de franchise plus 10% des coûts, pour notamment pour des familles où il y a des maladies, où il y a des problèmes qui sont réels, ils sont presque pris à la gorge. Et puis là, voilà, dans ce sens-là, je suis un peu réticent.
Je suis ton avis, parce que être malade, je peux vous assurer, ça coûte très cher, aussi aux malades.
Alors, on parle de réduction des prix, de primes aussi. Le PS a lancé une initiative pour l'allègement des primes. Il propose de limiter ces primes à 10% du revenu des familles pour justement diminuer les coûts. Est-ce qu'il faut, il dit qu'il faut agir pour éviter que ces personnes sombrent dans la pauvreté. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ?
Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise proposition, et je pense que les 10%, ils ne sont pas forcément mauvais en soi. Mais ce n'est pas en limitant à 10% que vous allez réduire les coûts de la santé. Oui. Vous allez simplement distribuer autrement celui qui paye. C'est-à-dire, les coûts, ils vont exactement être les mêmes, mais simplement, c'est quelqu'un d'autre qui va payer, c'est l'État qui va payer. Donc, pourquoi pas ? Mais c'est quelqu'un qui paye. Et puis, en fait, les coûts, on les a réduits de zéro.
Oui, et puis on a vraiment la réduction pour les gens qui n'ont pas les finances pour les payer. Et puis, je trouve qu'on peut poursuivre ce chemin qui est introduit et puis qui n'est pas mauvais non plus.
On arrive déjà au terme de ce débat. Christine Buller, Tom Gerber, merci d'avoir participé. On vous souhaite une bonne journée.
Merci pareillement.
Et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce débat sur rgb.ch. Demain, place à l'environnement. Nous recevrons la Verte, Moussia de Vatteville, et le PLR, Nicolas Rubin. Bonne journée.